Donc ce rapport à soi est essentiel à notre époque. Et évidemment, Nietzsche l'avait dit en parlant de la mort de Dieu. Hein, c'est Nietzsche dans un fameux paragraphe, le paragraphe 125 du Gai Savoir, au début des années 1880, qui annonce la mort de Dieu. Dieu est mort. Et Nietzsche avait envisagé que, après la mort de Dieu, c'est-à-dire la disparition de Dieu comme clé de voûte de la compréhension de notre humanité et de notre société, après la disparition de Dieu, qui se perd peu à peu dans les brumes, et etc., allait se poser la question du devenir de l'homme. Qu'est-ce que l'homme va devenir lorsque Dieu est mort, lorsque Dieu a disparu? Et c'est notre époque. Hein, Dieu a disparu, on pourrait dire, de la société politique, dans la manière dont nous nous comprenons et dont nous nous disons nous-mêmes ce que nous sommes. Et cette perte de Dieu engendre cette question, parfois angoissée, parfois exultante, de ce qu'est notre humanité et de la manière de vivre cette humanité. Alors je voudrais développer mon propos en deux points. Premier point, le plan n'a rien d'original. Premier point, quels sont les défis d'aujourd'hui? Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne prétends pas être exhaustif, mais je vais essayer d'en pointer quelques-uns. Et deuxième point, face à ces défis, comment vivre notre humanité? Et je développerai ma deuxième partie sur la notion de don, qui me paraît être une notion, et à travers la notion, la réalité, puisque quand les philosophes parlent des notions, ils ne restent pas aux notions, ils essayent de rejoindre le réel et de dire dans son intelligence ce qu'est cette réalité. À travers cette notion de don, peut-être une clé pour vivre et relever ces défis que nous nous posons à nous-mêmes, parce que les défis de notre époque ne tombent pas du ciel. C'est nous, d'une certaine manière, qui les fabriquons. Alors, premier défi. Alors, je dis premier simplement dans la présentation, je dis pas que c'est forcément le plus important. Ce que on pourrait appeler le défi du subjectivisme utilitariste et hédoniste, qui engendre. Alors, ce subjectivisme utilitariste et hédoniste, il n'est pas nouveau. Il est très prégnant à notre époque, mais l'utilitarisme. La doctrine utilitariste remonte au XVIIIe siècle, voire même avant, et on pourrait dire que l'être humain, depuis peut-être la chute originelle, cette tendance à accaparer les choses. Mais c'est particulièrement fort aujourd'hui. Donc ce défi du subjectivisme, qui va de pair avec, dans l'esprit de notre époque, en tout cas de nos sociétés, mais je pense que c'est malheureusement pas propre à nos sociétés, qui va de pair avec un progrès de ce qu'on pourrait appeler le relativisme, qui souvent s'habille d'un autre nom beaucoup plus noble à nos yeux, qui est le mot tolérance. Alors il y a des bonnes acceptions du mot tolérance, mais aujourd'hui le mot tolérance est souvent une manière, finalement, de faire entrer des personnes dans une forme de relativisme. Je vais y revenir. Alors, cette subjectivité utilitariste et hédoniste, donc qui se considère comme un centre et qui considère tout le reste dans ce que ça peut lui apporter, je voudrais en manifester dans l'évolution du concept de droits de l'homme, des droits de l'individu. Les droits de l'homme ont été déclarés dans différents textes au XVIIIe siècle. Et le présupposé, finalement, des droits de l'homme, de ceux qui ont énoncé ces droits de l'homme, ils les ont pas inventés, ils n'ont fait que reconnaître, objectiver des droits qui, justement, étaient inhérents à l'humanité en tant qu'humanité, à l'homme en tant qu'il était humain. Donc le présupposé de la déclaration, ou des déclarations, puisqu'il y en a eu beaucoup au XVIIIe siècle, c'est qu'il y a une humanité commune qui a des propriétés, et que les droits sont là pour, justement, que les êtres humains se reconnaissent mutuellement ses propriétés et ses qualités. Or, progressivement, ce serait trop long d'en faire l'histoire, mais progressivement, et surtout depuis...